9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. L'économiste Patrick Artus est en direct avec nous ce matin. Dans son livre « La dernière chance du capitalisme », il tire la sonnette d'alarme. Il va nous dire pourquoi. Je recevrai ensuite Blandine Rinkel. C'est l'une des romancières les plus douées de la jeune génération, celle des moins de 30 ans. Et dans « Tout tremble », elle parle longuement de cette génération que l'on dit sacrifiée. Elle va nous expliquer en quoi ils sont différents de leurs aînés et que signifie leur fameux « hockey boomers ». On terminera l'émission avec un boomer, justement. C'est l'un de nos plus grands médiévistes, c'est Julien Clerc. Patrick Artus, vous publiez chez Odile Jacob avec Marie-Paul Virard « La dernière chance du capitalisme », un livre dont on commence à beaucoup parler. Il faut dire que vous n'êtes pas un gauchiste ni un anticapitaliste. Vous êtes chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis. Or, vous nous dites dans ce livre que le capitalisme est de plus en plus contesté parce qu'il est devenu injuste, inégalitaire et inefficace.
Oui, alors ce qui montre qu'on n'est pas des gauchistes avec Marie-Paul, c'est qu'on insiste surtout sur inefficace. Puisque finalement, le deal du capitalisme néolibéral, on peut appeler ça le deal de Reagan ou de Thatcher, c'est qu'on allait avoir un système qui serait inégalitaire, il n'y aurait pas beaucoup d'État, il n'y aurait pas beaucoup de protection sociale, il y aurait des bas salaires qui resteraient bas, il y aurait des délocalisations pour faire baisser les prix et les coûts, mais que ce système serait très dynamique. On créerait beaucoup d'emplois, on créerait beaucoup d'entreprises, on aurait beaucoup de croissance. Alors même s'il y a, évidemment, il y a des succès, hein, récemment les vaccins ARN, hein, mais quand on regarde globalement, ce système a produit une croissance qui s'est complètement étouffée. Hein, de décennie en décennie, les gains de productivité ralentissent, il y a de moins en moins de progrès techniques, c'est une économie qui ne génère plus de revenus, quoi. Et donc ce qui est Et donc, pour nous, c'est ça l'échec. Hein. C'est qu'on a tous les inconvénients de cette forme du capitalisme, mais on n'a pas eu les avantages.
Mais vous invoquez comme raison que ce capitalisme est devenu actionnarial. Il est devenu trop généreux avec les actionnaires, aux dépens des salariés et des investissements à long terme.
Oui, alors, ce qui est au centre du capitalisme, c'est l'exigence de rendement du capital pour l'actionnaire. Alors, c'est pas tout à fait 15%, c'est plutôt 13%, mais enfin, c'est quand même très élevé quand on pense que les États s'endettent à 0 ou à 1%. Donc, on a quelque chose qui ne peut pas être une vraie rémunération du risque pris. Dans les années 80, le risque pris, ça se rémunérait de 3 à 4% par an. Ça se rémunérait
le risque
pas.
Pris par l'actionnaire,
pris par
qui investit
par
dans
l'actionnaire,
une entreprise.
Qui investit dans une entreprise, qui peut échouer, qui peut avoir des problèmes, etc. Ça vaut quelques points de rendement, ça ne vaut pas 13 points de rendement. Donc, c'est une rente, ce n'est pas une rémunération du risque.
Au fond, l'actionnaire devient un rentier.
Oui, l'actionnaire devient un rentier. Et alors, cette rente était en plus amplifiée par l'intervention des banques centrales. Ce qu'on explique aussi dans ce livre avec Marie-Paul, c'est que ce système qui ne produit pas de croissance, pourtant, a été soutenu par l'endettement des États, par une création de monnaie gigantesque. Et cette création de monnaie gigantesque a doublé les rentes, hein, parce qu'elle fait monter les cours boursiers, les prix de l'immobilier. Donc c'est un capitalisme qui est doublement rentier, quoi, avec une rente de rentabilité pour l'actionnaire et une rente qui vient de la politique monétaire.
Mais Patrick Artus, pourquoi ce capitalisme-là crée-t-il de moins en moins de richesses? Il favorise l'innovation, pourtant vous en avez parlé oui. Avec les vaccins ARN, mais on pourrait dire avec les GAFAM.
Oui, alors il y a des succès, il ne faut pas nier qu'il y a des succès. Mais on n'est plus du tout dans un capitalisme libéral. Capitalisme libéral, c'est enfin les libéraux détestent les rentes, c'est même leur détestation première normalement. Hein.
Ils n'aiment pas beaucoup l'héritage d'ailleurs.
Ils n'aiment pas les héritages, ils n'aiment pas les rentiers, ils n'aiment pas les héritiers, ils n'aiment pas qu'on gagne de l'argent sans faire d'efforts, quoi. Donc si on prend ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut critiquer ce capitalisme en prenant un point de vue radicalement libéral. Hein, et en disant, ce qui ne va pas, c'est que quand on veut 15% de rendement du capital, on ne fait pas toutes sortes d'investissements qui rapportent moins que ça, mais qui sont pourtant parfaitement nécessaires. Et il s'agit surtout d'investissements à long terme, hein, parce qu'un profit dans 15 ans, quand j'utilise 15% de taux d'actualisation, il n'en reste rien aujourd'hui. Donc quelque chose qui va me donner des profits dans 15 ans, juste je ne vais pas le faire. L'autre raison, évidemment, c'est la concentration des patrimoines, hein, qui fait qu'il y a peu d'individus, finalement, qui ont les moyens d'investir, hein, ce qui est aussi une perte. Et je partage l'avis, alors là, d'économistes très à gauche qui disent que on aurait sans doute une économie plus dynamique si on avait une meilleure répartition du patrimoine, hein, dans la population. Et puis, il y a les monopoles, quoi. C'est-à-dire, ce capital, c'est plus Reagan. C'est pour ça qu'on dit néolibéral, mais c'est une grave erreur. Parce que Reagan, il avait au moins cassé les monopoles, quoi, hein, dans le transport aérien, dans les télécoms. Nous, on a fabriqué des monopoles, et ce n'est pas que les GAFA. Hein, quand vous regardez les travaux qui sont faits surtout aux États-Unis, c'est dans tous les secteurs d'activité qu'on a des positions dominantes. Une entreprise monopoliste, ça tue ses potentiels concurrents. Et ça dort sur ses rentes, hein, donc ça, on comprend qu'il n'y ait pas beaucoup de croissance.
Mais Patrick Artus, s'il y a de tels rendements pour les actionnaires, c'est aussi parce que le capitalisme est devenu financier, non ? Il y a une concurrence énorme dans la finance, c'est à celui qui promettra le meilleur rendement.
Oui, alors c'est un point très intéressant, parce que l'épargneur de base, c'est-à-dire vous et moi qui essayent d'avoir un peu de retraite, il ne va jamais demander 15% de rendement. Il va être très content s'il a une retraite convenable. D'ailleurs, les grands fonds de pension dans le nord de l'Europe n'ont absolument pas comme objectif d'avoir 15% de rendement et on leur demande 5, 6, 7%, ce qui est parfaitement normal. Mais pourquoi est-ce que... c'est parce qu'on demande 15, parce que vous le disiez, il s'est créé en plus une concurrence pour la gestion de l'argent, hein, pour la gestion des actifs, dans le métier de la gestion de fonds, qui fait qu'on gagne des parts de marché si on donne de meilleurs rendements que son voisin. Et cette concurrence pour la gestion de l'argent a fait monter l'exigence de rentabilité. Et donc, les fonds disent aux entreprises, comme il faut que je mange mes concurrents, toi, dont je suis actionnaire, il va falloir que tu me donnes 15%. Et en plus, tous les trimestres, s'il te plaît, et pas simplement de façon erratique.
Le fait que l'importance qu'a prise l'économie numérique aussi, qui crée moins d'emplois qu'elle n'en détruit, ou en tout cas des emplois de moindre qualité, ça joue aussi.
Oui, alors le numérique, évidemment, ce capitalisme, il ne faut pas tout jeter. Hein. Une chose qu'on dit dans ce livre, c'est qu'il a quand même fait énormément baisser la grande pauvreté dans les pays émergents, puisqu'il a utilisé massivement les délocalisations pour baisser les coûts. Du point de vue des émergents, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Hein. On a investi dans les pays émergents.
On a délocalisé, on n'a pas pour avoir des coûts plus bas. Et donc, il faut reconnaître que ce capitalisme est associé à une très forte baisse de la très grande pauvreté dans les pays émergents. Et puis, il est associé, bien sûr, au développement du numérique. Alors, bien sûr, avec la forme négative dont on parlait à l'instant, c'est que ça se fait par des monopoles ou par des entreprises très, très dominantes. Et sur le marché du travail, c'est très intéressant. Parce qu'on a un débat aujourd'hui sur les années folles. Est-ce qu'on va, après la Covid, avoir 10 années comme dans les années 20, où ça va être extraordinaire, avec plein de croissance et plein d'enthousiasme ? Les années folles, ce n'est pas seulement le relâchement d'après la guerre. Hein. C'est qu'il y a des industries qui apparaissent et qui grandissent extraordinairement rapidement. Par exemple, l'industrie automobile aux États-Unis. Et donc, pour avoir des années folles, il faut avoir une industrie qui est toute petite aujourd'hui et qui, dans 10 ans, sera très, très grande et qui aura créé plein d'emplois qualifiés avec des salaires élevés. Le numérique, il ne fait pas ça. Le numérique, il crée très, très peu d'emplois qualifiés.
On fait une pause, Patrick Artus, et on va voir alors les consommateurs, parce qu'eux, ils profitent de ce capitalisme-là, tout comme les actionnaires.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé demain.
Nous sommes toujours avec Patrick Artus qui publie chez Audit Jacob avec Marie-Paul Virard « La dernière chance du capitalisme ». Alors ce capitalisme favorise les actionnaires, vous nous avez expliqué pourquoi. Il favorise aussi les emprunteurs, c'est pour cela que l'on s'endette beaucoup, le privé comme le public. Mais il favorise également les consommateurs.
Oui, en fait, pourquoi est-ce que ça tient ? Parce qu'on pourrait se dire tout ça est bizarre. Si c'est un capitalisme dont les seuls bénéficiaires, c'est les quelques pourcents de la population qui détiennent des actions. Il y a 7% des Français qui ont des actions. Hein, donc, on devrait avoir 93% des gens qui votent contre. Quoi. Or, en réalité, il y a une grande coalition, comme on dirait en Allemagne, qui s'est organisée autour du capitalisme. Il y a les emprunteurs, puisque comme on a beaucoup utilisé la dette dans ce modèle pour soutenir la croissance, hein, d'abord les dettes privées, et ça finit avec la crise des subprimes, hein, la dette des ménages sur l'immobilier, puis les dettes publiques aujourd'hui, avec la création monétaire qui les rend possibles, eh bien, on doit avoir des taux d'intérêt très bas pour rendre cette dette possible. Et en plus, comme on a baissé les salaires, c'est faisable, puisque comme on a baissé les salaires n'ont pas du tout suivi la productivité, il n'y a pas d'inflation et les banques centrales peuvent garder des taux d'intérêt très bas. Donc la première catégorie aussi bénéficiaire de ce capitalisme sont les emprunteurs. Hein. Et puis, ce qui rééquilibre un peu les choses, puisque les emprunteurs sont plutôt plus jeunes que les prêteurs. Et puis, la seconde catégorie, c'est les consommateurs, parce qu'on s'aperçoit que ce qui fait monter le rendement pour l'actionnaire fait baisser les prix pour le consommateur. Quand on baisse les salaires, qu'on n'augmente pas les bas salaires, qu'on délocalise dans les pays émergents, qu'on fait de la grande distribution, etc., évidemment, on a à la fois une hausse du rendement pour l'actionnaire et des prix plus bas pour le consommateur. L'inflation, il faut se rappeler que c'est un conflit de répartition pour le partage des revenus hein, entre les salariés et les entreprises. Quand les entreprises ont des profits qui montent très fortement, il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'inflation. Donc aujourd'hui, on est tous schizophrènes finalement, puisqu'on est bénéficiaire du système comme consommateur Et si on n'est pas un actionnaire important, on est perdant du système comme salarié, par exemple, et en particulier comme salarié de l'industrie à cause des délocalisations. Donc c'est un système qui a un soutien populaire, si on peut dire, beaucoup plus large que simplement les actionnaires.
Mais si l'on corrigeait demain la répartition des revenus des entreprises, donc au détriment des actionnaires cette fois, en faveur des salariés, en faveur des relocalisations, en faveur des investissements à long terme, en faveur de l'environnement, les prix vont forcément augmenter car les coûts de production vont augmenter, on aboutira donc à une perte de pouvoir d'achat.
Oui, alors, d'abord, on pourrait imaginer un capitalisme où les actionnaires acceptent une rentabilité plus faible du capital. Si les actionnaires des entreprises acceptaient 7 ou 8% de rendement au lieu de 14-15, ceci ne serait pas inflationniste s'il acceptait. Ça ne serait inflationniste que s'il luttait pour revenir à 15. Hein. Bon, par contre, après, vous avez parfaitement raison. L'économie qu'on souhaite, qui est une économie où on a relocalisé un certain nombre de productions, on fait de la transition énergétique, il faut quand même accepter l'idée que les énergies renouvelables, ça va être plus cher que les énergies fossiles. On monterait fortement les bas salaires. Je pense qu'on va monter les bas salaires. Je vois pas, il y aura partout une pression de l'opinion très importante pour redresser les plus bas salaires. C'est une économie qui va être plus inflationniste que l'économie dont on sort. Et alors ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'effectivement, il va falloir accepter collectivement que les prix les plus bas possibles pour le consommateur, c'est plus l'objectif central des politiques économiques. Et puis, deuxième problème, ça va faire remonter les taux d'intérêt avec un très grand risque de crise, parce que les niveaux d'endettement sont gigantesques et la remontée des taux, elle est terrible. Mais on ne voit pas bien comment on sort de ce problème, parce que vous avez une situation où on dit, possibilité 1, on va maintenir des taux d'intérêt extraordinairement bas, parce qu'on ne peut pas se permettre autre chose à cause des niveaux d'endettement. Mais alors, on reste dans ce capitalisme de rentier où les prix de l'immobilier vont monter de façon terrible, suffisamment que les actions vont continuer à monter et on ne sort pas de ce capitalisme de rentier. Ou bien vous normalisez les choses, les taux d'intérêt remontent, mais comment vous faites l'économie d'une crise des dettes, hein ? Donc la sortie de cette situation n'est pas simple.
Oui, et vous dites au début de ce livre, Patrick Artus, que tout ce que vous venez de décrire, c'est la raison pour laquelle on conteste de plus en plus le capitalisme. Mmh. Mais dans un pays comme la France, on a toujours contesté le capitalisme. Je pense à ce film Vincent, François, Paul et les autres de Côte-Sautée, nous l'avons tous vu. Et il y a cette scène où ils sont à la campagne et il y a le fils de Serge Reggiani qui parle des inégalités. Et tout le monde autour de la table dit oui, les inégalités n'ont jamais été aussi terribles. Et tous les gens dans la salle de cinéma, à l'époque, partageaient ce point de vue. Or, quand on regarde statistiquement, c'est l'époque où les inégalités ont été les moindres. Mais à ce moment-là, on accusait le capitalisme aussi de favoriser les inégalités, d'être cruel, alors que les actionnaires, à l'époque, étaient très peu rétribués. C'était plutôt les perdants de ce capitalisme-là. Donc, on se dit, au fond, c'est du ressenti, là aussi. On n'est pas dans la réalité des choses. Et on contestera le capitalisme de toute manière, quoi qu'il arrive.
Oui, mais moi j'essaie d'écrire des choses qui sont objectives et à nouveau pas comme révolutionnaire. Hein. Je dis, je suis un économiste normal, j'essaie de regarder et j'ai l'impression que quand même les choses ont assez violemment empiré. À la fin du livre, on suggère quelque chose qui ressemble à un retour au capitalisme des années 50, 60, 70, qu'on appelle un capitalisme ordo-libéral, où il n'y avait pas de rémunération excessive des actionnaires, où on n'avait pas beaucoup délocalisé, où on partageait convenablement le revenu entre les salaires et les profits. À cette époque, les salaires suivaient la productivité hein, et où les inégalités étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Donc effectivement, on a toujours protesté contre le capitalisme, mais dans les années 50, 60, 70, on avait un capitalisme qui était vraiment d'une nature très, très différente. Et alors, curieusement, il marchait mieux, hein, c'est ce qu'on disait au début, en termes de croissance, hausse du pouvoir d'achat, progrès technique, ce capitalisme des années 50, 60, 70 marchait mieux. Donc oui, mais je pense qu'aujourd'hui, la situation s'est quand même objectivement beaucoup dégradée. Et nous, on dit que le ressenti s'aggrave parce qu'on n'a plus la compensation. Enfin, c'est un peu, mais ce n'est pas un problème qu'occidental. On pourrait faire le même débat sur la Chine. Hein. La dureté du système, si elle n'a plus comme compensation l'élévation des niveaux de vie, elle est de plus en plus mal ressentie. Et je crois que c'est là où on se trouve aujourd'hui.
Mais la Chine, elle, a un capitalisme qui est quand même très, très différent capitalisme anglo-saxon qu'on est en train de décrire.
Oui, alors c'est pour ça qu'à la fin du livre, on explique qu'on préférerait le retour à l'ordo-libéralisme, qui est une vieille théorie allemande des années 30, où en fait, on est en économie de marché, hein, les choses s'échangent sur les marchés, et on essaie d'avoir des mécanismes de marché. On prend par exemple l'exemple du climat. Il y a un mécanisme de type dirigiste, hein, c'est on va écrire des centaines de pages de règles sur comment on doit se déplacer, se loger, s'habiller, manger. Et puis, il y a la version ordolibérale, c'est de mettre un prix du CO2 qui soit convenable et qui nous fasse spontanément prendre les bonnes décisions. Et je crois qu'on a une bifurcation. C'est-à-dire soit on va aller vers un capitalisme extraordinairement étatique, un peu à la chinoise, avec énormément d'interventions très dirigistes de l'État, soit on va aller vers un capitalisme ordolibéral où l'État simplement interviendra de façon intelligente pour pousser à avoir les bons comportements.
Merci Patrick Artus d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Votre livre « La dernière chance du capitalisme » coécrit avec Marie-Paul Virard vient de sortir chez Odile Jacob. On se retrouve dans un instant avec Blandine Rinkel.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Bonjour Blandine Rinkel.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, on vous doit deux formidables romans, L'abandon des prétentions et Le non-secret des choses chez Fayard. Vous êtes également chanteuse et parolière du groupe Catastrophe. Vous êtes donc quelqu'un qui compte dans votre génération. Vous êtes né en 1991, c'est la génération des millennials, des digital natives comme on les appelle. Et là vient de paraître Tout tremble aux presses universitaires de France où vous répondez aux questions du journaliste Jean-Marie Durand. Vous y parlez de vous, mais aussi de cette génération que l'on dit sacrifiée. C'est vrai que la crise du coronavirus, c'est au fond le premier événement historique qui vous a tous touchés de plein fouet, j'ai l'impression.
Qui nous a touchés physiquement, même si bizarrement, ce n'est pas un drame physique puisque la génération des 18-34 ans a été relativement épargnée par la réanimation. Mais en effet, l'impression que nos corps, soudain, étaient vraiment en jeu puisqu'ils étaient contraints, puisqu'ils étaient enfermés et que le propre de la jeunesse, je crois que c'est de vouloir être libre.
Vous citez également les attentats du 13 novembre à Paris, où vous étiez visé là aussi, hein, que ce soit au concert du Bataclan, dans les cafés du 10e arrondissement où il y a eu des fusillades. Vous étiez visé, mais vous n'avez pas tous été touchés, heureusement.
Non, mais j'ai la sensation qu'avant ça, j'ai la sensation de n'avoir vécu que des événements virtuels, virtualité du 11 septembre 2001, virtualité du crash boursier, virtualité... je ne sais pas, même du bug de l'an 2000. Enfin, tout ça a été virtuel. Et soudain, le Bataclan, c'est vrai qu'il y avait l'idée que des personnes qu'on connaissait pouvaient être dans la salle du Bataclan. Et on a, enfin, je pense qu'on est nombreux de ma génération à connaître directement des personnes qui ont été touchées ou des amis d'amis. Enfin, c'était soudain concret. On le sentait dans nos corps. J'ai senti vraiment un tremblement à ce moment-là. J'ai vraiment senti mon corps faire part de l'histoire, soudain revenir dans l'histoire.
Alors là, ça s'appelle Tout tremble. Ouais. Et vous parlez de cette génération sur laquelle on se pose beaucoup de questions, notamment depuis le début de la crise du coronavirus. Vous décrivez une génération plus inquiète et plus habitée par le sens des responsabilités que les deux précédentes. Vous parlez d'une génération qui marche sur des œufs. J'ai trouvé cette image très juste.
Oui, j'ai alors en répondant ça y est, je marche sur des œufs. J'ai en effet l'impression que ma génération et peut-être encore plus la génération qui arrive après la mienne.
C'est-à-dire ceux qui ont 20 ans, on va dire.
Ceux qui ont 20
ans. Vous venez juste d'avoir 30
ans.
Ouais,
est une génération préoccupée par le respect, par le fait de respecter les minorités, donc les femmes, les racisés, les handicapés, de respecter l'environnement, enfin l'idée de bien vivre, se demander qu'est-ce que c'est une bonne vie, qu'est-ce que c'est une vie qui ne serait pas juste une vie de jouissance, mais une vie éthique.
Et donc, aussi qui est tenté, c'est ce que vous avez l'air de dire, ouais, pas l'idée de culpabilité, parce que l'environnement, la diversité, les minorités, c'est la culpabilité là qui vient.
Ouais, j'ai en tous les cas, moi, ce sentiment d'hériter des culpabilités des générations avant moi et peut-être, par exemple, de la génération de mes parents. Mes parents, je pense pas, n'ont pas été proie à la culpabilité. Je pense que c'est un sentiment qui leur est assez étranger, en tous les cas sur le plan politique. Alors que ma génération, j'ai l'impression, est complètement prise dans la culpabilité et même la honte.
Les questions morales ont pris le pas sur l'hédonisme. On dit de votre génération qu'elle est moins attachée au bien matériel que ses parents. Et c'est votre cas d'ailleurs. Vous dites que vous vivez avec peu d'affaires, vous avez peu de goût pour la consommation, vous n'êtes pas attaché à la propriété. D'où ça vient ça? Ça vient d'Internet avec lequel vous êtes la première génération à avoir grandi. Au fond, votre matelas à vous, il est virtuel.
Oui, ça vient sans doute de ça. Ça vient aussi du fait, sans doute, que nos parents, nos grands-parents ont lutté pour acquérir des biens matériels. Enfin, quand ils n'étaient pas héritiers eux-mêmes. Mais par exemple, si je prends mes parents qui sont nés en 50, donc il y avait 18 ans en 68, pour eux, c'était vraiment une une lutte d'avoir une propriété, une maison. Et donc moi, j'arrive après eux, je suis comme sur leurs épaules. Et je pense qu'on est nombreux à être sur les épaules de nos parents. Et donc à ne pas trouver, le fait d'acquérir des biens matériels si désirables que ça, parce que c'est ce dont ils ont rêvé. Et on arrive après ce rêve-là, donc le nôtre est un peu différent. Et je pense que c'est celui d'un monde plus viable, plus respirable et moins tourné, oui, vers une société de consommation. C'est plus une société de sobriété qui est comme désirable. Comme si la consommation n'était plus cool, n'était plus.
Est-ce que vous avez l'impression d'être une génération sacrifiée ? C'est un terme qu'on a beaucoup employé depuis un an.
C'est difficile et je ne parlerai pas pour toute une génération là, comme ça, sur Europe 1. Moi, j'ai éprouvé depuis un an beaucoup de colère parce que les mesures du gouvernement m'ont semblé assez inéquitables et m'ont semblé pénaliser en effet très fortement la jeunesse et la jeunesse précaire. Enfin, précaire parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va être l'avenir, mais précaire aussi sur le plan matériel. Quand chez soi n'est pas tout à fait chez soi, quand c'est chez ses parents ou quand c'est un tout petit logement qu'on vient de louer, c'est beaucoup moins soutenable d'être enfermé dans des conditions précaires. Donc oui, j'ai éprouvé de la colère. De là à dire qu'on est une génération sacrifiée, je ne sais pas.
On fait une pause, Blandine Rinkel, on se retrouve juste après. Dans Tout tremble, Blandine Rinkel, vous décrivez votre génération comme à la fois écoutée par les aînés et infantilisée.
Oui. l'impression qu'on nous donne qu'on donne le micro à cette génération, par exemple comme on l'a donné à Greta Thunberg, et en même temps énormément de mépris en retour pour les paroles qui peuvent être
Au début on l'a écouté assez religieusement, et puis c'est après, quand elle s'en est pris aux générations précédentes, qu'on a commencé à être
oui, c'est donc de l'amertume, c'était une peut-être. Sorte de réaction peut-être, je sais pas, j'ai l'impression en tous les cas qu'il y a une sorte de grand effort de donner la voix, et en même temps quand on parle vraiment des choses sérieuses, on va pas tout à fait écouter les jeunes personnes.
Mais l'infantilisation, quand je vous ai lu, je me suis dit oui, au fond, ça m'a rappelé quelque chose, notamment depuis le début de la crise du coronavirus. On vous voit souvent comme des irresponsables. Fallait absolument vous empêcher de vous rassembler, de vous empêcher de danser. Le préfet de police à Paris a interdit la musique amplifiée sur la voie publique la nuit, le 29 septembre dernier. C'était à vous qu'il pensait, c'était à votre génération. Et mercredi dernier, on a vu des policiers armés jusqu'aux dents vider les terrasses de la place de la Contrescarpe en fin de journée. Le danger, c'est vous.
Je ne sais pas si le danger chez nous, c'est nous, chez nous. L'infantilisation, je pense, est une espèce de tendance générale de la société en ce moment. Enfin, en tous les cas, de la manière dont le gouvernement nous parle ou de la manière même dont les publicitaires communiquent. Je ne pense pas que c'est une infantilisation qui est spécialement adressée à la jeune génération. Je pense que tout le monde est infantilisé. Enfin, moi, je suis assez frappée quand je me promène dans le métro de voir plein d'espèces de petites blagues friendly, des petits bonhommes souriants, on a vraiment l'impression d'être dans une sorte de société de grands enfants, d'enfants éternels. Mais en même temps, on ne respecte pas ce qu'il y a de sauvage dans l'enfance, ce qu'il y a aussi d'immoral dans l'enfance. C'est une sorte de manière... Il y a une publicité en ce moment dans le métro qui dit « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus tard ?» Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Et c'est marqué « Je veux être gentil ». Apparemment, c'est un livre pour enfants, mais je trouve que c'est quand même probant de quelque chose qui dysfonctionne dans la manière dont on voit et l'enfance et l'âge adulte.
L'expression « ok boomers » qui s'est popularisée parmi les gens de votre âge, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors moi, j'ai à la fois de la tendresse et de l'incompréhension pour la génération dite des boomers. De la tendresse parce que je peux comprendre ce qu'ont été leurs idéaux, leurs rêves, enfin, et puis cette espèce de manière de vivre, hédonique. Je ne sais pas quel est le
manuel. Hédoniste,
ouais. Hédoniste, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et à la fois de l'incompréhension parce que je trouve cette génération assez sourde aux problèmes qui concernent spécifiquement la génération, enfin les générations d'après. En dessous de la leur, les générations d'après. Et je pense que c'est à cette surdité que répond l'expression OK boomer, manière de dire OK boomer. D'accord, on a compris que toi, ta génération était celle qu'elle a été, que le monde était sué. Mais maintenant, les choses ont changé, change de disque, et peut-être essayer d'écouter que nous, nos soucis sont, par exemple, écologiques.
C'est pas la liberté sexuelle.
Exactement.
Ce que vous dites dans tout Trump, vous dites la liberté sexuelle, on l'a, on ouais. est avec. Donc, le pouvoir d'achat, vous ne l'avez pas, mais ça n'a pas l'air de vous poser de problème, en tout cas pas à vous.
Non, après, je pense que moi, j'appartiens quand même. Enfin, je suis relativement privilégiée. Donc, c'est en effet le pouvoir d'achat. J'ai l'impression de l'avoir. Je ne souhaite pas gagner 200 SMIC par mois. Ça me semble être un rêve complètement absurde, absolument pas désirable. Et je pense que ça l'a été en revanche pour les générations. Oui, par exemple, mes parents, je pense que s'ils avaient pu, alors ils en étaient très loin, mais s'ils avaient pu gagner 200 SMIC par mois, c'est un rêve qui leur paraissait souhaitable. Et je crois qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus tout à fait. En tous les cas, les gens que je fréquente.
Le pouvoir tout court, ça n'a pas l'air de vous intéresser non plus. Vous ne vous pressez pas pour aller voter, vous laissez cela aux seniors. C'est vrai, ce sont eux qui lisent les journaux, qui regardent la télé, qui votent. Pourtant, vous êtes capable de vous indigner, de vous mobiliser, notamment sur les réseaux sociaux, et de tenter des choses nouvelles.
Oui, je crois qu'on s'est habitué à avoir une puissance immédiate avec Internet, enfin à avoir le sentiment, alors c'est sans doute une illusion, hein, mais avoir le sentiment qu'on peut agir très vite avec Internet, qu'on peut tout de suite, je ne sais pas, être indigné par une situation, le tweeter, qu'on peut vouloir faire une collecte, je ne sais pas, de fonds pour aider, je ne sais pas, les femmes violentées par exemple, et la collecte va très vite et on obtient tout de suite beaucoup d'argent, donc du pouvoir, et on peut tout de suite agir, alors que les institutions de la Ve République sont plus lentes, enfin le fait de, voilà, aller voter. Par exemple, en 2020, aux élections municipales, le deuxième tour a eu lieu 2 mois après le premier tour. Donc
c'était exceptionnel.
C'était évidemment exceptionnel. Mais je veux dire, ça c'est une impression de lenteur et je pense une impression d'impuissance qui n'est pas tout à fait en phase avec ce qu'on expérimente dans la vie de tous les jours. Après, à titre personnel, je tiens à dire que moi, je vote et je crois à ces institutions et je pense qu'elles sont importante et nécessaire, et que c'est important aussi de différer l'opinion qu'on peut avoir sur les choses et la réalisation de cette opinion.
Et même de prendre du temps pour y réfléchir.
Et de prendre du temps, ouais, bien sûr. Mais j'essaye d'expliquer ce que je crois comprendre, c'est-à-dire que je ne parle pas ni en tant que sociologue, ni en tant que politicienne, ni en tant que qui que ce soit. Voilà. Mais je parle en tant que romancière, en tant qu'écrivain, et j'essaie juste d'observer et d'expliquer ce que je crois comprendre. De cette génération
qui est la vôtre. Internet, vous avez grandi avec, c'est très différent d'avoir grandi avec quelques chaînes de télévision comme vos parents, mais ça change quoi ?
Sur Internet, on s'exprime quand même, on s'exprime très vite. Encore une fois, c'est la réaction, je pense, qui est assez immédiate. Enfin, j'ai eu une adresse email, moi, je pense, à 10 ou 11 ans. Et dès 13 ou 14 ans, j'avais un blog, je m'exprimais. Je ne sais pas si c'est bien, c'est pas forcément une bonne chose de s'exprimer à tout va. Je ne crois pas que ça le soit. Mais je pense que c'est ça la vraie différence. Alors que ma mère, qui a grandi vraiment avec la télévision et qui aujourd'hui encore est avant tout attachée à la télévision, même si elle a un ordinateur et une adresse email, n'a pas idée de s'exprimer pour répondre aussitôt à ce qu'on lui dit, aux informations qui tombent. Enfin, elle en parlera avec ses amis, mais elle n'a pas idée aussitôt de se dire tiens, je vais pouvoir agir, je vais avoir cette possibilité-là. Alors que moi, c'est vrai que dans ma manière de me figurer la société, je me la suis tout de suite représentée comme une société dont je pouvais être partie prenante. Et je pense qu'Internet a joué là-dedans.
Votre monde semble plus vaste et plus complexe, justement, parce que vous avez grandi avec Internet. Il est plus angoissant aussi, mais il offre davantage d'alternatives, non ? Il y a plus d'opportunités. Avant, tout le monde montait dans le même train, même si tout le monde prenait un wagon différent. C'était quand même un train, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un vaste aéroport avec plusieurs terminaux et on peut s'envoler dans toutes les directions.
C'est beau, une belle métaphore. Oui, sans doute. Et je crois qu'en plus, on peut aujourd'hui vraiment préciser sa quête, sa communauté. On peut vraiment trouver des gens qui cherchent exactement ce qu'on cherche, avec le risque aussi que ça scinde la société, bien sûr, et qu'on ne parle plus qu'à des gens qui nous ressemblent et qui partagent le même désir. Et voilà. Enfin, je trouve que c'est à la fois une chance et j'ai une petite inquiétude quand même quant au fait qu'on puisse à ce point accéder à des désirs si précis.
Tout tremble, c'est le titre de ce nouveau livre qui vient donc de paraître aux Presses universitaires de France, Blandine Rinkel, livre dans lequel vous répondez aux questions du journaliste Jean-Marie Durand. Merci d'être passé par Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Julien Clerc.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir. Terrien, votre 39e album, donc 26e album studio, est sorti en février. Il est réédité déjà avec des maquettes de 6 chansons en piano-voix telles que vous les donnez, ou plutôt telles que vous les avez données au réalisateur de l'album, Marlon B. Vous composez la musique sur les paroles. Hein, vous.
Beaucoup. Je fais quelques chansons sans paroles, mais enfin... Plus le temps passe, plus j'aime composer sur les textes.
Je voudrais qu'on écoute tout de suite un extrait, je trouve, d'une chanson bouleversante. Je trouve que c'est une de vos meilleures chansons, et pourtant Dieu sait si vous en avez de nombreuses. C'est L'homme à nager. C'est Clara Luciani qui a écrit les paroles. Vous avez composé la musique. On vous écoute.
La légende dit qu'il est parti vers midi de chez lui, puis il s'est déshabillé sur la plage désertée, cheveux blondis, corps bronzé. Puis le récit s'obscurcit, le vacancier se contredit, il n'est plus sûr de ce qu'il vit. L'homme a nagé, 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 si loin et si bien, si bien, si bien, que jamais, 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 jamais il ne revint. L'homme a nagé, 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 si loin, si bien, si bien, si bien, que jamais, 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 jamais il ne revint. Jamais. Que fuyait-il ainsi? A-t-il rejoint l'Italie? On a raconté aussi qu'il aurait voulu noyer au grand large un amour blessé. Puis le récit s'obscurcit, le seul témoin se contredit, il n'est plus sûr ce qu'il vit. L'homme a nagé, 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 si loin et si bien, si bien, si bien, que jamais, 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 jamais il ne revint.
Julien Clerc, vous avez toujours cherché des textes signifiants, des textes poétiques. Est-ce qu'il vous arrive d'intervenir ensuite? Est-ce que vous corrigez ce que vous font dire vos paroliers? Dans quoi ils vous engagent parfois?
Ah non, quand je choisis un texte, non, ce que je me permets de faire, c'est ce que je faisais beaucoup avec Rodin, avec Rodin Gilles au début, ouais, enfin, ouais, beaucoup, c'est que je taillais un peu là-dedans, ça dépendait. Je prenais, quand il n'y avait pas de refrain, je faisais un refrain avec trois phrases qui me plaisaient, etc. Pour sur certains textes, hein, parce qu'il y en a d'autres que j'ai fait comme ça, mis intégralement en musique. Mais... Je demande des corrections. Oui, je demande des corrections.
On parle toujours de vous en tant que chanteur. On oublie à quel point vous êtes musicien et que vous êtes un sacré compositeur. Et je dirais même un sacré mélodiste.
Mais c'est même mon emploi, mélodiste. Je suis un mélodiste chantant, en fait. Et je suis un mauvais instrumentiste. Je ne suis pas un très bon pianiste, mais le piano est un support qui me sert à inventer mes mélodies.
Il y a deux sortes de chanteurs, ceux qui nous racontent leur vie et ceux qui nous racontent la nôtre. Pour moi, c'est une vraie différence, et le fait que vous faites partie de la deuxième catégorie, sans doute parce que vous n'écrivez pas les paroles vous-même.
Oui,
vous avez
possible.
Recours à des paroliers.
Vous avez raison, c'est possible ça. D'ailleurs, je remercie la mère nature tous les jours de ne m'avoir fait que compositeur. Peut-être que je n'aurais pas duré ce temps-là si j'avais été les deux. Peut-être qu'à un moment donné, je me serais retrouvé enfermé dans mon inspiration, j'aurais plus su quoi dire. Alors que là, avec tous ces auteurs avec qui je travaille, mais ils m'apportent tout le temps du nouveau grain à moudre.
Ça doit être formidable de se dire qu'ils vont tous accepter. C'est comme une espèce d'appel d'offres que vous faites à la France entière, en tout cas,
oui,
à tout ce qu'elle compte de paroliers.
Je ne suis pas sûr. Mais enfin, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais reçu de rebuffade.
Ou il y en a peut-être qui ont oublié, non? Et qui ne vous ont pas rendu les paroles à temps. Ça a pu arriver,
Non, mais c'est, comme c'est moi qui demande, Je veux dire, voilà, tous ceux à qui j'ai demandé, je n'ai jamais, jusqu'à maintenant, essuyé de refus.
Pourquoi la pochette de Terrien est en noir et blanc reprend-elle exactement les codes de votre septième album en 1975 où figurait « Souffrir par toi n'est pas souffrir » ou « This Melody »
Oui, sûrement parce que ça a été fait par des gens qui n'étaient pas nés l'année où
on a fait « This
Melody ».
Vous devez dire qu'ils ne l'ont pas fait exprès.
Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Je pense qu'ils ont, ils ont tombé sur cette pochette-là. Mais ils n'ont pas vu à quel point ça pouvait être éventuellement, moi, me gêner. D'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit, j'étais très embêté. Je leur ai dit, elle est jolie, votre pochette, mais je ne peux pas me permettre de faire ça parce que je l'ai déjà fait. Bon. Et puis, en fait, c'est un des gardiens du temple qui est un ami, qui est devenu un ami, Marc Paréchal, qui a longtemps dirigé la promotion dans la maison de disques où j'étais, qui est maintenant à la retraite, mais qui m'a dit, au contraire, c'est génial, les fans vont être ravis, etc. Alors, je me suis dit, si lui dit que ça va...
On va écouter d'autres extraits de cet album, c'est La Rose et le Bourdon. C'est une chanson sur le réchauffement climatique, mm-hmm. avec des paroles du rappeur Vincha.
Des glaciers millénaires qui nous ont vu grandir, des jardins éphémères qui savent tout de nos rires, du raisin à l'automne, des cerises à l'été, quand sonnaient les trombones, où étions-nous cachés? À cet enfant qui naît, qui pose la question, comment lui expliquer la rose et le bourdon? Comment lui raconter le tourment des saisons? À cet enfant qui naît, qui pose la question, pourquoi n'a-t-on rien fait? Pourquoi n'a-t-on rien fait?
Julien Clerc, on se demande toujours quelle planète on va laisser à nos enfants. On se demande jamais à quels enfants on va laisser cette planète. Ce serait un bon sujet de chanson.
Oui, c'est pas mal. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'articles en ce moment sur... on va laisser la planète à des enfants qui ont une obsession, j'ai envie de dire, que nous n'avions pas du tout, qui est l'obsession des écrans. Est-ce que ça va changer leur façon de voir le monde? Vous savez, il y a un très bon truc en ce moment sur Netflix d'une femme qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, je pense que ça s'appelle This is a City, c'est une ville. Elle s'appelle Fran Lebowitz. Alors c'était.
C'est à New York.
C'est à New York. Elle est formidable, cette
femme.
C'est
une New-Yorkaise qui nous promène dans New York. C'est un formidable documentaire.
Formidable documentaire. Et elle a un humour évidemment juif, Askenas, formidable. Et alors ce film est fait par Scorsese, qui visiblement est mort de rire dès qu'elle ouvre la bouche. Donc c'est vraiment sympathique à voir aussi. Et elle aborde beaucoup de sujets, dont celui-là à un moment donné. Mais elle dit, mais bon, oui, ils sont obsédés par les écrans, mais peut-être qu'ils vont être meilleurs que nous finalement. Donc on n'en sait rien.
Merci Julien Clerc d'être venu nous voir sur Europe 1, Terrien, et donc sorti, réédité avec... des maquettes de 6 chansons en piano-voix. C'est votre 39e album. Vivement le 40e.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. On se retrouve samedi prochain. Après le flash, ce sera comme tous les dimanches, le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Votre invité, c'est Olivier Faure.
Olivier Faure, donc premier secrétaire du Parti Socialiste député de Seine-et-Marne. La gauche joue son va-tout pour les élections régionales. Demain, elle va se retrouver également pour tenter de s'entendre sur un programme commun pour 2022. Au PS, l'union reste un combat.
Merci Mickaël, bonne émission.